France Culture.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture. Une émission préparée avec Sacha Mattei, Quentin Péchard, Anouk Millot, Barthélémy Gaillard et Loïc Antoine, réalisée par Vivian Lecuivre et à la technique Timothée Hubert. Dans un monde où la biodiversité est en danger, certaines espèces animales sont érigées au rang d'emblème. Cette semaine, on s'intéresse aux animaux totems et à ce qu'ils racontent de l'histoire des hommes. Nous avons évoqué le panda, devenu ambassadeur des intérêts diplomatiques chinois, puis le bison, icône de la faune sauvage et des mythes du Grand Ouest américain. Demain, nous nous demanderons comment le chat et autres animaux de compagnie se sont fait une nouvelle place dans les foyers. Mais ce matin, la baleine, symbole du militantisme écologique.
L'orcale commun, c'est un animal assez majestueux par sa taille, par sa puissance, par son élégance. Et c'est aussi le second plus gros animal sur la planète. Et il faut absolument qu'on le préserve.
Greenpeace ne se focalisait pas sur les baleines au début. C'est Paul Spong qui nous a dit qu'il fallait faire quelque chose. J'ai sauté sur l'occasion. Bob Hunter aussi. Oui, il faut s'occuper des baleines. Alors on a lancé la mission Greenpeace 5 pour s'attaquer aux baleiniers russes.
Typiquement, si tu montes un projet pour protéger les baleines, tu auras 4 fois plus de chances que si tu dis « Ok, je vais protéger les requins ou les concombres de mer ». La baleine, c'est grand, c'est beau, c'est magnifique, ça saute et tout ça. Donc je pense que la baleine est un exemple parfait de réussite de la conservation.
La légende raconte que la baleine, blessée à mort, avait compris qui étaient les chasseurs et qui étaient les autres venus à son secours. Alors que l'homme, sur sa frêle embarcation, était menacé par le harpon, elle aurait plongé pour l'épargner. Il vit alors dans son œil la pitié, non pas pour elle, mais pour lui, juste avant qu'elle ne meure. Cette histoire, c'est Paul Watson, le célèbre militant de la protection des baleines, qui la raconte. Un récit fondateur, maintes et maintes fois répété aux militants, mais aussi aux médias du monde entier. Les ONG de protection de la vie marine le savent, toutes les espèces n'ont pas cette faculté de susciter à la fois admiration, empathie et respect auprès du grand public, d'être perçues par les humains comme un égal, voire comme une divinité. Il y a toute la tendresse du monde dans l'œil du cachalot, écrit la dessinatrice Pomme Bernos en marge de ses croquis de cétacés dans un ouvrage co-signé avec l'océanographe et plongeur François Sarano. Et pourtant, il n'y a pas si longtemps, les baleines étaient associées aux créatures monstrueuses de la mer et la chasse intensive dont elles furent l'objet n'émouvait personne. Alors comment la baleine est-elle devenue cette icône de la biodiversité marine, ce porte-étendard du militantisme écologiste ? Quelles sont les autres représentations qui existent à travers le monde alors que certains refusent d'y voir autre chose qu'une ressource? Quelle bataille écologique mais aussi culturelle autour de l'image de la baleine? On en discute avec nos deux invités. Vincent Ridoux, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue, vous êtes professeur émérite à La Rochelle Université, chercheur à l'Observatoire Pélagis et responsable scientifique de la délégation française à la Commission baleinière internationale. Et notre deuxième invité, Fabien Clouette, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue également, vous êtes anthropologue chargé de recherche au CNRS, au laboratoire Espace et Société de Rennes. Vous êtes l'auteur de l'ouvrage « Des vies océaniques, quand des animaux et des humains se rencontrent ». C'est paru cette année aux éditions du Seuil. On commence avec vous, Fabien Clouette. Peut-être question à la fois simple et compliquée. Est-ce qu'on sait comment expliquer pourquoi c'est la baleine qui est devenue ce symbole de la protection de la biodiversité marine? Pourquoi la baleine et pas la tortue, le poulpe ou le dauphin?
Oui, d'abord, il y a peut-être un premier paradoxe dans la présence des baleines dans nos mondes et dans nos mondes à la fois imaginaires dans nos mondes sociaux, c'est qu'ils sont très présents, sont des animaux très présents dans nos références culturelles, dans les films, dans les livres, dans même les chambres d'enfants, il y a des peluches de baleines partout. Et pourtant, il est très rare, en réalité, de les rencontrer dans la vie. C'est très rare. Et puis même, quand on fait l'effort de d'aller à la rencontre de ces animaux, que ce soit dans des missions scientifiques ou via des organismes de tourisme, en fait, c'est des animaux qui, sitôt apparus, sitôt disparus, c'est un souffle, une nageoire sur l'horizon. Et en parallèle de ce paradoxe-là, il y a un imaginaire très fort qui s'est construit autour de ces animaux presque invisibles de nos champs de vision humains, avec notamment au second XXe siècle des références culturelles, films, livres, toujours, qui ont capitalisé sur ce charisme en fait des cétacés pour construire des personnages un peu plus sympathiques, en tout cas loin des monstres des récits antiques, médiévaux, modernes. Et on a un petit peu Moby Dick comme ça qui a laissé place à Sauvy Willy, c'est-à-dire des récits qui étaient centrés autour d'individus animaux, des grandes fresques presque d'amitié entre des baleines et des humains, alors qui accompagnaient également la fin de l'ère baleinière, l'instauration du moratoire dans les années 80, et puis la remise en question de la captivité aussi récemment, plutôt les années 2020, début des années 2020, et puis on est encore dedans.
Rares sont ceux qui ont eu la chance d'apercevoir en vrai une baleine, effectivement. Et en même temps, ce sont des animaux, puisqu'ils parcourent la planète, qui sont connus du monde entier. Contrairement au bison qui est très attaché à l'Amérique, dont on parlait hier, au panda qui est associé à la Chine. Est-ce que cette dimension universelle de la baleine a joué aussi dans la fabrication du symbole, Fabien Clouette ?
Oui, ils sont cosmopolites, ils sont sur toutes les mers du monde. Il y a certaines espèces comme ça qui sont tout à fait cosmopolites et qui ont également suscité un cosmopolitisme humain qui poursuivait en fait ces animaux, notamment c'est l'histoire de la chasse en réalité, puisque la chasse à la baleine, on dit communément qu'elle est née en Occident sur le littoral basque. Et que après l'extinction de la baleine franche de Biscaye, qui est la première espèce qui a été chassée parce qu'elle passait pas loin des côtes basques, une fois que cette baleine-là, cette espèce-là a été éteinte, en fait, à partir de la fin de l'époque médiévale, des expéditions ont été amenées un peu plus lointaines, du côté de Terre-Neuve, à la recherche d'autres baleines qui avaient été observées lors de campagnes à la morue, des baleines franches, mais de l'autre côté de l'Atlantique. Puis c'est l'histoire également de la chasse au cachalot, comme ça, sur toutes les mers. On les a chassés sur toutes les mers, et peut-être qu'aujourd'hui, c'est un autre type d'énergie qu'on chasse, qu'on cherche à obtenir des rencontres avec ces animaux. Aujourd'hui un tourisme qui s'étend de plus en plus, un tourisme d'observation avec des hotspots comme ça dans certains endroits du monde où on va aller observer telle espèce. Et donc une autre énergie, un autre feu de la baleine, son huile nous a servi à illuminer nos villes pendant des siècles, et puis dernièrement c'est plus une autre lumière qu'on va chercher à leur rencontre.
Vincent Ridoux, je reviens à cette question première qui est pour essayer de comprendre pourquoi c'est la baleine qui émerge comme le symbole de la protection des océans. Est-ce que le fait qu'elle ait frôlé l'extinction explique aussi la focalisation et l'attention qui existe sur la baleine ?
Oui, je pense effectivement, il y a parmi les différentes espèces de baleines qui existent, il y en a plusieurs qui ont frôlé l'extinction véritablement. Donc ce sont des symboles de la protection de la nature aussi, parce que ce sont des vrais exemples de leur quasi-destruction, en tout cas pour certaines d'entre elles. Et après l'arrêt ou le ralentissement, le très fort ralentissement de la chasse à la baleine, parce qu'il en existe toujours un petit peu, mais extrêmement limité par rapport à ce qu'on a connu au cours du 19e et du 20e siècle surtout, eh bien on voit que majoritairement ces populations se sont reconstituées, enfin, ont commencé à se reconstituer, certaines d'entre elles sont totalement rétablies, donc il y a une vraie histoire à la fois de surexploitation massive et puis ensuite de mesures de protection, qui est l'arrêt de la chasse commerciale, qui a porté ses fruits pour, je dirais, une majorité d'entre elles. Pas toutes, parce que ce n'est pas une réussite uniforme, mais pour beaucoup de populations, quand même, ça a été extrêmement bénéfique.
Oui, le sauvetage de la baleine est associé à une forme de réussite, même s'il y a beaucoup de limites et beaucoup de défis encore, on va en parler. Justement, comment est-ce que dans les années 70, des grandes ONG, évidemment, on pense à Greenpeace, qui a été fondée en 1971, puis à Sea Shepherd, quel a été le rôle de ces grandes ONG dans la préservation, certes, des espèces, mais aussi dans la construction du symbole. Vincent Ridoux.
Alors, je pense qu'elles ont d'abord eu un rôle très important pour rendre public quelque chose qui était plus confidentiel, c'est-à-dire que la gestion des chasses à la baleine était quelque chose de relativement confidentiel, limité d'abord aux industriels de la chasse à la baleine, aux pays concernés, aux experts, aux politiciens aussi concernés par ces prises de décision. Les scientifiques, dès les années 50, en fait, montraient qu'il y avait sans doute des limites aux pratiques que l'on avait à cette époque-là et qu'on en capturait probablement déjà beaucoup trop. Mais on n'avait pas, à cette époque-là, les moyens de chiffrer vraiment la taille des populations et leur déclin. Et du coup, le poids des scientifiques, le poids de la parole scientifique n'était pas suffisant pour contrecarrer les intérêts commerciaux qui avaient à continuer à aller chercher ces animaux très loin dans tous les océans du monde. Et donc, pendant plusieurs décennies, en fait, le débat, il n'est pas en faveur de la conservation parce que les arguments scientifiques n'arrivent pas à contrebalancer les intérêts économiques. Et je pense que le débat devient plus large, plus public, du fait de l'action des ONG dans les années 70-80.
C'est une histoire que Paul Watson a de maintes fois racontée, le jour où une baleine lui a sauvé la vie.
Le cachalot se débattait de douleur. J'ai vu son œil quand il s'agitait à la surface, puis il a plongé. Et là, une traînée de bulles de sang a foncé dans notre direction. Il a sauté à un angle qui aurait pu l'amener à s'échouer pile sur nous. Sa tête est sortie de l'eau juste à côté de moi. J'étais si près que j'aurais pu faire le tour d'une de ses dents avec mes doigts. J'ai vu son œil disparaître. Et il est mort. J'ai une dette personnelle envers ce cachalot. Il a choisi de ne pas nous tuer. J'ai vu de la pitié dans son œil. Pas pour lui-même, mais pour nous. Comment pouvions-nous faire une chose pareille? Et pourquoi? Au milieu de l'océan, dans ce bateau, je me suis demandé pourquoi ils font ça.
Les hommes bons, les hommes mauvais, le sacrifice de l'animal, la dette de l'homme, la communion entre espèces aussi, il y a tout ça dans ce récit très intense de Paul Watson, Fabien Clouette. Est-ce que le tour de force de Sea Shepherd et de Paul Watson en particulier, ça a été aussi de, vous commenciez à l'évoquer tout à l'heure, d'imposer l'idée que on ne parle pas de stock de poissons, de stock de ressources, mais d'individus, et que chaque animal est un individu qu'il faudrait protéger.
Oui, tout à fait. C'est tout à fait un des phénomènes qu'on observe quand on s'intéresse à notre relation aux cétacés de manière générale, aux mammifères marins de manière générale, mais particulièrement aux grands cétacés. C'est cette focalisation sur des moments singuliers de rencontres, de face à face, et des individus dans les récits, notamment les récits d'ONG, qui permettent de mobiliser aussi autour de ces récits. C'est peut-être un des éléments de tension, et notamment de tension aujourd'hui, qu'on peut retrouver entre, ben, d'une certaine manière, la cause animale, la cause animale qui se concentre autour d'individus et qui a des enjeux moraux davantage, et de l'autre côté, un point de vue un peu plus scientifique, qui pense plutôt en termes de population, Alors, pas forcément de stock, parce que c'est un terme qui se réfère quand même à la chasse, mais il ne faut pas oublier que la cétologie, elle a longtemps, c'est une science naturaliste qui a longtemps été pratiquée depuis le pont du baleinier aussi, donc en dépendance à cette industrie, avec par exemple même des techniques qui se sont développées à bord de ces bateaux. On peut par exemple penser au fait que les premiers déploiements de balises, qui sont des éléments extrêmement importants pour encore aujourd'hui connaître les modalités d'existence de ces animaux qui nous échappent pour beaucoup parce que ils vivent sous la surface. Bien la première occurrence par un scientifique qui s'appelait Per Schollander, c'est dans les années 30 où on équipe une tête de harpon d'un profond 10 mètres. Et concrètement, on est encore dans des gestes même aujourd'hui. On le voit récemment encore. Dans des controverses autour de ces gestes sur l'invasivité, sur le rapport comme ça, et qui sont probablement le sujet de tension entre deux populations, deux groupes activistes d'un côté, scientifiques de l'autre, cause environnementale, cause animale, qui peuvent s'opposer alors qu'ils ont souvent le même intérêt et qu'ils ont eu tendance également pendant de longues années à cheminer de concert, les scientifiques apportant des données, des faits, et les activistes les portant devant les tribunaux ou participant de la judiciarisation de ces éléments. Avec d'autres éléments dont on parlera probablement plus tard, mais depuis quelques années, c'est plus le cas, évidemment, que la science navigue à couple de cette industrie baleinière, de toute manière réduite à quand même peau de chagrin. Mais par contre, elle doit cheminer parce qu'il y a besoin de moyens pour mener des travaux, notamment d'études comportementales sur ces animaux. Il y a besoin de moyens et donc il faut souvent s'associer et on le voit en tout cas à l'échelle internationale, de nombreux partenariats avec une industrie touristique qui s'est faite également très... qui a créé une forme de dépendance pour beaucoup d'équipes dans certains endroits.
Vincent Ridoux, en 1982, un moratoire sur la chasse à la baleine est adopté par les États membres de la Commission baleinière internationale, la CBI. Il entrera en vigueur quelques années plus tard, en 1986. Est-ce que, à ce moment-là, dans les années 80, on sait s'il y a un lien de cause à effet entre la mobilisation des ONG, cette stratégie à la fois de médiatisation des actions, de personnalisation des cétacés et ce cheminement diplomatique et politique qui aboutit au moratoire?
Alors, je pense qu'il y a plusieurs mécanismes qui sont en cours. Bien sûr, il y a l'action des ONG qui agit sur les opinions publiques, sur les gouvernants également. Et puis, il y a aussi le fait que plusieurs des pays baleiniers principaux qui étaient à l'origine de la création de la CBI en 1946 ont également laissé tomber cette activité pour différentes raisons, et notamment parce qu'une partie des produits qu'on utilisait sur les baleines ont été remplacés par d'autres sources, notamment issues du pétrole. Et donc c'est le cas de la France, par exemple. La France fait partie des pays fondateurs de la Commission baleinière, à une époque où l'activité de chasse était, je dirais, déjà résiduelle en France, et puis s'est arrêtée pour des raisons d'abord commerciales, industrielles, en tout cas pas des raisons liées à une prise de conscience environnementale. Et d'autres pays, pour les mêmes raisons, ont vu cette activité reculer jusqu'à l'arrêt total, et ce qui a facilité la mobilisation de ces pays-là. Donc on a observé que il y a eu une sorte de convergence entre une évolution industrielle, commerciale, d'une part, l'évolution aussi des mentalités, des opinions publiques, et dans ces pays-là, donc principalement les pays d'Europe, et puis certains pays d'Europe, et puis l'Amérique du Nord. Eh bien, il était plus facile pour les dirigeants de dire on arrête. Mais dans le même temps, d'autres pays avait conservé des usages que nous n'avions plus des produits baleiniers, en particulier la consommation de la viande. Donc c'était le cas en Union soviétique, c'était le cas au Japon, en Corée et quelques autres. Et ces pays-là résistaient et continuaient à vouloir chasser une ressource naturelle pour la consommation humaine.
Il faut préciser que le moratoire, je ne l'ai pas dit, concerne ce qu'on appelle la chasse commerciale, qui se distingue de la chasse dite traditionnelle. La Norvège et l'Islande ont poursuivi la chasse commerciale après le moratoire. Le Japon est également sorti en 2019 de la CBI, ce qui l'autorise en théorie à faire ce qu'il veut en matière de chasse. Donc ça veut dire que, pour bien comprendre la situation aujourd'hui, malgré ce moratoire, la chasse commerciale, elle perdure.
Elle perdure, mais alors il faut vraiment avoir, effectivement elle perdure, dans des niches juridiques particulières et qui sont communes à beaucoup d'accords internationaux. Dans les accords internationaux, il est souvent nécessaire de prévoir en quelque sorte des sortes d'échappatoires pour que les pays restent autour de la table. Les pays qui ne sont pas d'accord restent autour de la table de négociation. Quand une décision majoritaire est prise qui ne leur plaît pas, eh bien ils peuvent poser des objections, ce qui leur permet d'avoir un régime dérogatoire dont ils peuvent bénéficier. C'est ce qui s'est passé pour la Norvège, pour l'Islande et le Japon, d'une certaine manière également, d'abord en pratiquant beaucoup une chasse dite scientifique. Donc ils utilisaient un paragraphe du règlement qui permettait de faire cela, mais il l'a détourné de son objectif principal. Et puis ensuite, en quittant l'organisation, eh bien, il sortait des obligations liées à la CBI. Et donc voilà, ces pays-là, ils continuent de chasser, mais les chasses d'aujourd'hui, c'est environ 1500 captures par an de différentes espèces, un tiers pour les chasses autochtones, donc de l'Alaska, du Groenland, de Sibérie. Un tiers pour les chasses des pays de la CBI sous régime dérogatoire, Norvège, Islande, et un tiers pour les pays extérieurs à la CBI, dont maintenant le Japon. Et donc ce 1500 baleines, il faut les comparer à des captures dans les années 50-60 de plus de 60 000 individus par an. Et évidemment, donc on n'est pas du tout dans le même registre, même si la chasse n'a pas totalement cessé.
Cette année, c'est difficile. Il n'y a pas de baleines. Si les baleines ne viennent plus, nous mourrons. S'il n'y a plus que des petits poissons, nous survivrons tout juste. Ce n'est pas comme avec les baleines. La maléra ne vit que par les baleines. L'argent pour payer l'école vient des baleines. Lorsque les baleines apparaissent, nous sommes heureux.
Une habitante du village de Lamarella sur l'île de Lambeta en Indonésie. C'est un extrait du documentaire Lamarella, l'ultime combat de Jean-Michel Corillon, sorti en 2010. Sur quel principe, Vincent Ridoux, cette exception pour la chasse traditionnelle avec des quotas qui ont été fixés a été construite? Est-ce que c'est en lien avec des revendications de droits autochtones notamment? Quelle a été justifiée?
Alors tout à fait, c'est directement en lien avec les droits des peuples autochtones. Et ça me donne l'occasion de dire que les baleines sont des symboles de différentes choses. Et si dans les pays occidentaux, eh bien, le symbole prédominant, c'est celui de la préservation de la biodiversité, vous l'avez présenté en introduction, mais dans d'autres pays, c'est autre chose. Et ils sont aussi des symboles, mais d'autres valeurs. Et donc dans un certain nombre de pays, ben ce sont les symboles de l'identité, des droits des peuples autochtones à utiliser les ressources naturelles de leur environnement. Ailleurs, c'est aussi des symboles de l'identité nationale. Je pense au Japon par exemple, parce que la chasse à la baleine, en réalité, au Japon, elle s'est développée de manière industrielle assez tardivement et elle a été favorisée après-guerre, après la Seconde Guerre mondiale, alors que le Japon était en grande partie détruit par la fin de la Seconde Guerre mondiale, qu'il était sous administration américaine. Et un des éléments favorisant Son redémarrage a été le développement de sa chasse industrielle à la baleine en Antarctique. Et donc, pour beaucoup de Japonais qui sont maintenant âgés, eh bien, c'est aussi ce symbole très fort de l'identité nationale et de sa reconstruction après-guerre. Donc, voilà, les baleines sont des symboles, mais de choses différentes selon les points de vue que l'on a et selon les pays et les peuples auxquels on a affaire sur la surface de la planète.
Effectivement, contrairement à une idée reçue, on peut lire, notamment dans les travaux pardon, j'ai oublié son prénom, de Monsieur Pelletier, qui a beaucoup travaillé sur le Japon, qui explique que cette chasse est une tradition très récente, vous le disiez, qui est née à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Fabien Clouette, comment est-ce que cela illustre la dimension politique du récit sur la tradition, sur l'identité qui est associée à la baleine?
Oui, moi, en écho de ce que vient de dire Vincent Ridoux, je connais un petit peu l'exemple norvégien, où c'est pareil, dans les discussions sur le terrain, est invoqué comme ça le caractère traditionnel, par moment, cet aspect comme ça. Disons, traditionnel, qui devient en fait en réalité un peu folklorique également, c'est-à-dire dans ce pays-là en particulier, où il y a un quota qui a été augmenté cette année à 1400 captures, quelque chose comme ça, parce que en réalité il n'y a pas assez de demandes et que les baleines qui sont chassées ne sont pas chassées au nombre du quota. Et cette chute de consommation, peut-être également, le fait que ça soit une habitude qui est finalement peu répandue, aujourd'hui, elle crée des situations sur le terrain, en tout cas, qui provoquent des dissonances un peu cognitives, parce que c'est un pays où se développe beaucoup le tourisme d'observation, dans certains hotspots, notamment associé au tourisme d'exploration arctique. On va aller chercher les aurores boréales, et aujourd'hui on va aller chercher les autres aurores boréales que sont les présences de baleines, donc avec un tourisme un petit peu dérégulé aussi, où on peut non seulement observer ces animaux, mais se mettre à l'eau avec des orques, et puis en même temps avec des baleines à bosse, et puis voir des rorquals, tout ça dans la même dans le même espace et dans la même temporalité. Et en réalité, ensuite, on va pouvoir débarquer de son semi-rigide après avoir eu cette expérience, rentrer dans un supermarché et se retrouver face à un stand de salaison de baleines. Et finalement, ça participe de la même expérience folklorique, touristique, liée à des traditions, mais qui sont une forme de réappropriation par une industrie touristique qui essaye de faire perdurer cette tradition-là. Et avec les enjeux politiques en arrière-plan, c'est-à-dire qu'on peut être dans des restaurants de Tromsø, par exemple, voir des burgers de baleines qui sont appelés le Bloody Paul Watson, donc avec une insulte à Paul Watson au passage, histoire de montrer un petit peu ces enjeux politiques directement.
Pardon, j'allais vous demander de préciser aussi sur le cas de la Norvège. Vous expliquez, Fabien Clouette, dans vos travaux, que ce sont parfois les mêmes acteurs qui font office de guide touristique, qui embarquent les visiteurs observer les baleines, et puis qui ensuite montent sur les baleiniers en période de chasse, et sans y voir apparemment de contradiction, en tout cas sans mal le vivre. C'est notamment un guide en particulier que vous avez rencontré qui vous a frappé.
Sans faire une généralité à partir de certains cas, et puis notamment parce que la démographie des baleiniers, elle est peu importante, parce qu'il y a peu de bateaux, donc c'est impossible de faire des généralités à partir de ça. Mais en effet, sur le terrain, une autre dissonance cognitive à laquelle on est confronté quand on fait du terrain, notamment pour enquêter sur ce tourisme d'observation qui se développe et qui est singulier, c'est de voir que il peut y avoir des guides naturalistes qui amènent des touristes se baigner au milieu de ces présences animales charismatiques, singulières, sauvages, etc., avec un objectif clair et net à la fois de capitaliser sur ces moments, mais également de sensibiliser à la présence de ces animaux et la conservation de ces animaux, de ces espèces-là, en particulier la baleine à bosse, les orques. Et ces mêmes guides, en tout cas un guide en particulier, m'expliquait que il faisait la saison baleinière sur un navire baleinier quand c'était la saison baleinière, la saison à la pêche quand c'était la saison à la pêche, et la saison au tourisme d'observation quand c'était la saison du tourisme d'observation. Et il n'y voyait finalement que deux faces d'un même phénomène, qui est l'exploitation d'une ressource. D'où cette tension dont on tourne autour depuis le début de la conversation, entre l'individu, le groupe, parler en termes de stock, parler en termes d'individu. Et l'autre élément, c'est que ce tourisme d'observation, il se retrouve ensuite partagé, parce que ce qu'on va vendre, c'est des expériences de rencontres. Et donc, ces expériences de rencontres, elles sont médiatisées. Il y a prolifération de caméras action à bord, avec des perches à selfie qu'on pourrait presque dire qu'elles ont remplacé le harpon à bord. On va essayer de capturer son image de baleine, et puis ensuite on va la partager, et par le jeu des algorithmes, etc., ça va créer une forme de désir d'aller à la rencontre de ces animaux, et ça va créer des bulles comme ça, des bulles d'intérêt, de désir à cet endroit, qui vont provoquer ensuite des flux, des intérêts. Il est courant aussi de se dire que des pays comme la Norvège prennent conscience petit à petit qu'une baleine vivante rapporte plus qu'une baleine morte.
Vincent Ridoux, sur ce nouveau secteur qui se développe, de l'observation des baleines, du tourisme autour des baleines, est-ce qu'on sait déjà dire quels impacts cela peut avoir sur les animaux eux-mêmes ?
Alors, oui, Fabien vient de parler de ce développement de l'activité touristique d'observation des baleines, et qui est parfois peu régulée. Et donc, il y a effectivement un certain nombre de situations où des sites qui étaient très, très intéressants au plan de l'observation des baleines ont vu se développer de manière un petit peu anarchique beaucoup d'industries liées à l'observation des baleines, avec de nombreux navires, avec de nombreuses sorties par jour, avec une pression d'observation, une pression de présence sur le site qui est très importante. Et puis les animaux, finalement, ils vont fuir ce dérangement permanent, et puis ils vont aller dans d'autres endroits qui sont peut-être pas aussi favorables pour eux que ne l'était ce site avant que les navires d'observation s'y rassemblent. Donc il ne faut pas penser que l'observation, qu'on pense être quelque chose de parfaitement bénin, le soit totalement. Et quand effectivement c'est développé d'une manière très intense, ça correspond à une sorte de pression, de dérangement, c'est l'équivalent d'une sorte de destruction d'habitat, puisque l'habitat n'est plus aussi favorable qu'il était avant, et les animaux quittent cette zone parfois pour aller voir ailleurs. Et donc on a pas mal de situations dans le monde concernant les baleines, concernant les dauphins, où effectivement le développement trop intense de cette activité a été suivi d'effets négatifs sur les populations de baleines.
Et on sait qu'ils sont particulièrement sensibles aux nuisances sonores en mer notamment.
Ils chassaient dans des bateaux comme celui où nous nous trouvons actuellement. Terra Azul l'a complètement restauré. On ne renie pas nos racines, notre passé, mais au contraire, on veut rendre hommage aux personnes qui ont travaillé dans cette activité. Il faut imaginer qu'ils devaient attraper une baleine deux fois la taille du bateau, avec un petit harpon, dans un environnement hostile comme l'océan Atlantique, pour subvenir aux besoins de leur famille, avec aucune garantie de succès, ou même de revenir vivant. C'était un basculement très intéressant. Nous avons abandonné une activité prédatrice et nous l'avons remplacée par la protection des baleines et l'écotourisme. Les Açoriens ont prouvé au monde qu'on pouvait toujours vivre des baleines sans les tuer, mais en faisant de la sensibilisation et de l'éducation.
Témoignage du fondateur de l'entreprise d'observation des baleines, Terra Azul. Alors cette fois, on n'est pas en Norvège, mais dans les Açores. C'est un extrait d'un reportage de France Culture diffusé en août 2025. Vincent Ridoux, on entend dans ce témoignage que la question de l'acceptabilité de l'activité reste extrêmement importante. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une pression désapprobation mondiale de la chasse qui continue de jouer sur les activités économiques?
Alors, en tout cas, dans les pays, je ne sais pas si on peut parler des pays occidentaux, mais en tout cas, dans les pays qui ont basculé vers la protection de la nature, la protection des baleines et puis leur observation plutôt que leur chasse, il y a effectivement une opinion généralement dominante de rejet de l'activité de chasse, avec des nuances quand même, hein, parce que par exemple, en France, d'un côté, on va voter contre l'activité de chasse commerciale, mais en même temps, on va aussi voter en faveur de la chasse autochtone. Donc, il y a des nuances dans la façon d'être opposé à la chasse. Et il y a d'autres gens ou d'autres groupes de personnes ou d'autres pays qui vont être également très opposés à la chasse autochtone. Donc, voilà, il va y avoir différentes nuances dans la façon dont la pratique de la chasse est perçue et à quel point elle doit être régulée ou totalement arrêtée.
Fabien Clouette, vous nous expliquiez tout à l'heure comment Paul Watson, le militant de la défense des baleines, ne jouissait pas d'une image très positive en Norvège, alors au Japon non plus évidemment, mais en Norvège aussi. Quels sont les débats qu'il y a aussi autour de lui, de son ONG et de son approche de la défense des grands animaux marins? Comment est-ce que ça se structure sur ce qu'on disait tout à l'heure entre les adeptes de la défense intégrale de tous les êtres vivants dans les océans et une approche de plus en termes de gestion durable?
Oui, c'est un élément extrêmement intéressant des controverses actuelles, et notamment on a pu le voir à l'occasion de son invitation à la Fête de l'Humanité très récemment, où il y avait des collectifs qui s'indignaient de sa présence, puisque en parallèle de ses engagements pour les baleines et la conservation des baleines, il avait pu tenir des propos qui pouvaient être perçus comme malthusiens, c'est-à-dire dans le sens d'une écologie de droite, pas forcément très sur l'immigration aussi, avec des paroles très plus qu'ambiguës. Et ce qui montrait également un défaut à cet endroit de pouvoir mobiliser de mobiliser le grand public, mais de pas pouvoir réellement mobiliser en intersectionnalité, par exemple, des militants qui pouvaient être plus convaincus par d'autres arguments. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que cette concentration du récit autour de la chasse à la baleine, et notamment en individualisant comme ça également des profils pas seulement animaux mais humains autour de personnalités charismatiques, alors du côté des défenseurs comme Paul Watson, mais du côté également des baleiniers avec des capitaines de bateaux particuliers, etc. Ça a tendance un peu à faire oublier des causes, et Vincent Ridoux pourra ajouter des informations plus précises à cet endroit que moi, mais des causes peut-être plus importantes aujourd'hui de mortalité de ces animaux, comme les collisions, et qui font d'une certaine manière moins récit, puisqu'il n'y a pas d'individu personnage au centre de la fresque, mais il y a une remise en question de phénomènes un peu plus globaux, du capitalisme mondial pour le transport maritime ou ce genre de choses. Donc ce sont des controverses qui sont très intéressantes à analyser aujourd'hui autour de cas qui sont très médiatiques également.
Et ce sont effectivement les cargos de la mondialisation qui sont aujourd'hui la principale menace pour les baleines davantage que les baleiniers. Vous écoutez Culture Monde, troisième épisode de notre série sur les animaux totems. On parle aujourd'hui de la baleine et dans un instant, direction le Vietnam, où c'est un culte au sens religieux qui est rendu à l'animal. Je suis émue, comme tu m'émeus, avec ta puissante beauté, tu me donnes vie. Je t'en prie, ne me laisse pas partir. Moving de la chanteuse Kate Bush, sortie en 1978, une chanson qui a connu un certain succès au Japon. On parle ce matin de la baleine, icône de la protection des océans et direction à présent le Vietnam.
France Culture, Culture Monde, Mélanie Chalandon.
Parfois, toutes les deux semaines, durant la pleine lune, au 30e jour du mois lunaire, une fois par mois quand j'ai du temps libre ou quand je vais pêcher mais que j'attrape peu de poissons, je vais au temple de la baleine pour brûler de l'encens, me mettre à genoux et prier. Et je demande aux esprits de la baleine de me bénir et de me fournir ce dont j'ai besoin.
C'est un culte très populaire dans la communauté des pêcheurs au sud du Vietnam. La baleine, considérée comme un génie protecteur des hommes, y est vénérée à travers des temples et des prières, mais aussi de grandes fêtes qui commémorent des cas d'échouage de baleines sur les plages et qui attirent des Vietnamiens de tout le pays. Bonjour Quoc Thuan Nguyen.
Bonjour.
Bienvenue, merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes chercheuse associée à l'Institut d'Asie orientale. Vous êtes l'autrice de l'ouvrage « Le culte de la baleine, un héritage multiculturel du Vietnam maritime ». C'était paru aux presses universitaires de Provence. Il faut qu'on parle de ces fêtes qui sont très propres au sud du Vietnam, Quoc Thanh Nguyen, les fêtes de la baleine. Et pour les raconter, il faut que vous nous expliquiez d'abord qu'il n'y a pas de date précise pour les fêtes de la baleine. Chaque date dépend du village. Expliquez-nous.
Alors, vous m'entendez bien ?
Oui.
Alors, donc, les fêtes de baleines changent selon les villages, puisque ces fêtes-là sont reliées aux dates d'échouage. C'est le jour où la baleine vient... Alors, il y a un terme vietnamien pour ça. On ne dit pas « viens mourir sur la plage » ni « échouer sur la plage ». C'est un terme, en vietnamien, ça se dit « lui ». C'est un petit peu comme si c'était le génie baleine qui venait rendre visite au village de pêche. Et donc, cette date-là est commémorée et c'est cette date-là qui sera célébrée chaque année. Donc, évidemment, la date varie selon les échouages de baleines et varie selon les villages.
Ce sont des fêtes qui durent entre 1 et 3 jours, expliquez-vous dans vos travaux. Ce sont des célébrations assez fastueuses, très joyeuses. Et par quelles activités sont-elles rythmées? Est-ce que vous pouvez nous les décrire en quelques mots?
Alors, la fête de la baleine, c'est la seconde partie du culte de la baleine. La première partie du culte de la baleine étant l'échouage de la baleine et les obsèques de la baleine. Et donc, ensuite, arrive la deuxième partie. Là, on célèbre l'âme de la baleine. On a, entre-temps, recueilli des ossements qu'on a pris dans le cimetière sacré, là où on a enterré la baleine. On récupère les ossements, on les a ramenés au temple. Et donc, les festivités, c'est la seconde partie du culte. Généralement, donc, les fêtes démarrent le premier jour d'échouage de la baleine. Et c'est le jour des cérémonies, le jour des prières. Les pêcheurs prennent une sorte de palanquin, retournent sur la plage, là où la baleine s'était échouée, font des prières, font des cérémonies pour recueillir l'âme de la baleine. Ensuite, les pêcheurs disent que la baleine revient occuper le palanquin. On transporte le palanquin jusqu'au temple de la baleine où on dépose le palanquin et les festivités commencent. Là, jusque-là, il n'y a que des pêcheurs qui font des prières, qui font des cérémonies. Mais une fois que le palanquin est au temple, tout le village peut se réunir pour faire la fête. Et ce sont des fêtes qui sont très très impressionnant parce que vous avez tous les villages des alentours qui se réunissent au village de pêche où il y a la fête. Vous avez des centaines, voire des milliers de personnes. Il n'y a pas que les pèlerins, les fidèles du culte de la baleine, mais on a également des citadins, voire des agriculteurs qui n'ont strictement rien à voir avec le culte de la baleine, qui viennent quand même rendre hommage à la baleine ces jours-là.
Et vous expliquez que ce culte ne s'est jamais essoufflé. On l'a vu apparaître depuis la fin du 19e siècle, même si on en voyait déjà les traces auparavant. Et il faut expliquer, Kwaktan Nguyen, que c'est d'une certaine manière un culte qui a été institué politiquement par le premier empereur Nguyen. Est-ce que c'est une pratique qui vient d'en haut, d'une certaine manière?
Oui et non. Alors, c'est un culte qui a été introduit par le premier empereur de la dynastie des Nguyen, qui se prononce Nguyen en vietnamien. Alors la légende raconte que cet empereur a été sauvé par une baleine en mer lorsqu'il a dû fuir son royaume poursuivi par des usurpateurs. Et des années plus tard, lorsqu'il a pu regagner son trône, il a mis en place ce culte. Mais c'est en réalité un acte politique. Ce culte existait déjà à cet endroit-là. Mais pour fédérer toutes les ethnies de son royaume, de son nouveau royaume, il a dû officialiser ce culte, puisque le culte était en réalité observé chez l'ethnie Kham, qui vivait dans le centre et le sud du Vietnam à cette époque-là. Donc en officialisant ce culte chez les Vietnamiens, il a pu pacifier un peu son royaume. Donc c'est une sorte d'intégration d'un culte entre guillemets étranger. Il a vietnamisé ce culte-là. Donc il pacifie son royaume en mettant en harmonisant un peu les ethnies Kham avec l'ethnie des Viet.
Et vous, oui, pardon.
Oui, je vous écoute.
Vous expliquez que les fêtes de la baleine et le culte de la baleine sont restés très vivants au Vietnam et qu'ils attirent des personnes qui n'ont rien à voir avec les communautés de pêcheurs. Comment est-ce qu'on explique, est-ce qu'on peut expliquer cette popularité grandissante des fêtes de la baleine dans tout le Vietnam?
Oui, alors, ça démarre en réalité en 1986, lorsque le gouvernement vietnamien a mis en place la politique du renouveau, le Doi Mui, qui est une politique d'ouverture à l'économie de marché. Auparavant, les fêtes de la baleine étaient célébrées par les pêcheurs, et exclusivement et uniquement par les pêcheurs et leurs familles. Et à partir de 1986, lorsque le Vietnam s'est ouvert à l'économie de marché, donc à la modernité, la progression du pays a été très très rapide. Rappelez-vous, dans les années 90, on appelait le Vietnam le petit dragon. Et beaucoup de Vietnamiens se sont retrouvés comme ça un petit peu perdus. Tout allait tellement vite, ils ont perdu leur repère avec la modernité, ils ont perdu leurs références. Et pour retrouver leurs repères et retrouver leurs traditions, ils se sont retournés vers les villages de pêche. Donc, au moment donc, des fêtes de la baleine, ils viennent chercher leurs traditions dans les villages de pêche auprès des pêcheurs. Et contre les agriculteurs, c'est encore autre chose. Les agriculteurs, pour leurs champs, ils ont besoin d'eau. Et la baleine, c'est un petit peu le symbole de l'eau qui tombe. Vous voyez ? Donc, et ils ont toujours besoin d'eau, donc ils viennent un peu demander la prospérité auprès du génie baleine. C'est pour ça qu'il y a des centaines, des milliers de personnes au moment des festivals de la baleine. Et il y a tellement de monde que même les agences de voyage envoient les touristes dans les villages au moment des fêtes.
Vous le disiez, il y a des demandes qui sont adressées à la baleine. Et justement, je voulais vous demander, puisque la baleine est considérée comme un génie protecteur, de quoi protège-t-elle les pêcheurs en particulier? Et qu'est-ce que eux lui adressent dans leurs prières?
Alors, les pêcheurs, ceux qui vont en mer, moi je n'ai affaire qu'à des pêcheurs artisanaux. Je dois dire que je ne travaille pas du tout avec des pêcheurs hauturiers. Alors, les pêcheurs artisanaux, ils demandent la protection de la baleine pour contre des tempêtes en mer. Ils demandent la protection en cas de tempête, en cas de naufrage. Et ils demandent également que la baleine les dirige vers les bancs de poissons.
Donc la baleine comme une ressource. Kwaktan Nguyen, on sait que la mer de Chine méridionale, qui est notamment bordée par le Vietnam, est un espace maritime en tension où plusieurs nations se disputent la souveraineté sur plusieurs îlots. Est-ce que le culte de la baleine est aussi utilisé par le Vietnam pour appuyer certaines revendications maritimes?
Oui, malheureusement, on aurait tort me croire que c'est seulement religieux et culturel. Le culte de la baleine est devenu aujourd'hui un enjeu géopolitique également. Comment vous expliquer ça? En fait, le culte de la baleine, c'est une mémoire collective. Et de mémoire collective à la légitimation historique, il n'y a qu'un pas. Hein. Cette relation est une relation ancienne qui lie les pêcheurs vietnamiens à la mer de Chine méridionale. Parce que ce culte prouve que les pêcheurs vietnamiens ont toujours fréquenté ces eaux qui sont aujourd'hui contestées entre différents pays, dont la Chine. Donc. Et c'est le culte de la baleine qui renforce l'idée que ces territoires qui sont fréquentés par les pêcheurs vietnamiens font historiquement partie de l'espace de vie et de croyance des Vietnamiens. Et vous savez qu'en droit international, l'occupation effective et continue justifie la revendication de souveraineté, d'où l'importance accordée aujourd'hui à ce culte. Merci. Et les Vietnamiens utilisent leur patrimoine maritime, leur tradition, oui, pour réaffirmer leurs droits.
Merci beaucoup, Kwok Tan Nguyen, pour cet éclairage sur le culte de la baleine au Vietnam. Votre ouvrage, Le culte de la baleine, un héritage multiculturel du Vietnam maritime, est paru aux presses universitaires de France. Merci beaucoup à nos deux invités de la première partie. Vincent Ridoux, professeur émérite à La Rochelle Université, chercheur à l'Observatoire Pélagis, et Fabien Clouette, anthropologue chargé de recherche au CNRS et au laboratoire Espace et Société de Rennes. Tout de suite, c'est la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Et si le carburant, Catherine, devenait une nouvelle arme dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine ?
Puisque les efforts diplomatiques sont au point mort, les forces ukrainiennes intensifient leurs attaques de longue portée contre des cibles stratégiques russes, et notamment les infrastructures pétrolières, un secteur clé de l'économie pour le Kremlin, souligne le Kyiv Independent. En 2 mois seulement, près de la moitié des raffineries russes ont été touchées par des drones et des missiles envoyés donc depuis l'Ukraine, rapporte The Economist et la BBC. Les exportations russes de carburant chutent, ce qui réduit aussi la la capacité de Moscou à financer sa guerre, ajoute le Financial Times. Et cela pourrait bien infléchir le cours, ou du moins le récit, la perception de ce conflit qui dure depuis 3 ans et demi maintenant, touchant les Russes dans leur quotidien. Un onglet, pénurie de carburant, figure d'ailleurs en une du site du journal économique russe Kommersant, et qui dit pénurie dit aussi hausse des prix, avec un diesel 35% plus cher à la pompe dans la région de Rostov, indique Kommersant. Le prix de la tonne d'AI 92 et d'AI 95 battent des records, ajoute le quotidien économique russe. Ce sont les carburants les plus populaires en Russie. Des drones ukrainiens ont également frappé le plus grand site de stockage de pétrole de Crimée, à Féodossia, situé à 250 km du territoire contrôlé par l'Ukraine. Il peut contenir jusqu'à 250 000 tonnes de carburant destinées à l'approvisionnement des forces russes, explique le Kyiv Independent et le journal russe Lenta. Ce site pétrolier est aujourd'hui ravagé par les flammes et l'incendie se propage désormais au réservoir de pétrole dans la partie nord du dépôt, selon le média local Krimski Veter. Des usines russes produisant des explosifs ont également été touchées par des drones ukrainiens, mais ce que ressentent le plus les habitants de Crimée, annexée par la Russie en 2014, c'est donc la pénurie de carburant.
Очереди на заправках в Крыму. У топливных сетей не хватает бензина, марок АИ-92 и АИ-95.
File d'attente aux stations-service en Crimée, les réseaux de distribution manquent d'essence, décrit un journaliste de la Deutsche Welle dans son service russophone. Et même les autorités de la péninsule occupée ont reconnu le problème. Ils demandent aux habitants de faire preuve de patience, alors que des drones ukrainiens ont touché depuis le mois d'août des raffineries dans la région russe d'Astrakhan, bordant la mer Caspienne, dans la région aussi de Briansk, frontalière de l'Ukraine, dans la région de Salavat, près du Kazakhstan, énumère la Deutsche Welle, ce qui a poussé la Russie à prolonger l'interdiction d'exporter de l'essence jusqu'à la fin de l'année, indique encore la Deutsche Welle et le Moscow Times, afin de limiter la casse sur le marché intérieur russe. L'Ukraine a gravement endommagé aussi un important terminal d'exportation de pétrole à Novorossiysk, sur la mer Noire, des raffineries aussi dans la région du Bashkortostan, à plus de 1 300 km de l'Ukraine, énumère The Economist. Des drones ukrainiens ont également frappé l'une des plus grandes raffineries de pétrole de Russie dans la région de Leningrad. C'est ce que rapporte le média russophone indépendant Medusa.
Et est-ce que la presse avance des chiffres précis sur les conséquences de ces frappes ukrainiennes et de cette crise de carburant pour la Russie ?
Alors cette vaste campagne Deep Strike de frappes en profondeur contre 85 cibles à présent a considérablement réduit les capacités du complexe militaro-industriel de l'ennemi, se félicite le commandant en chef des armées ukrainiennes. Il dit pouvoir le constater sur le champ de bataille. Et l'agence de presse nationale en Ukraine annonce que Kiev commence à utiliser des missiles de croisière Flamingo d'une portée de 3000 km, bien plus rapide que des drones et doté d'une force de frappe considérable. Mais il est difficile d'avoir une idée précise de la baisse de production d'essence en Russie, note la BBC, car les données sont classées confidentiel, mais la pénurie de carburant pèse bien, selon le Washington Post, sur le quotidien des Russes. Des Russes confrontés aussi à des impôts plus élevés, à une diminution des dépenses sociales alors que la guerre contre l'Ukraine se prolonge. Le projet de budget russe, d'ailleurs, pour 2026 propose la première réduction nominale des dépenses de défense en 3 ans de guerre. C'est aussi pour cela qu'aux États-Unis, Donald Trump a récemment qualifié la Russie de « tigre de papier » en grande difficulté économique, ajoutant qu'il est temps pour l'Ukraine d'agir. Une bataille donc sur le terrain et sur le plan énergétique. Face à la diminution de ses revenus de pétrole et de gaz, Moscou a intensifié ses frappes de drones aussi sur le réseau électrique ukrainien ces derniers jours, indique le Moscow Times, faisant craindre une nouvelle campagne visant à plonger le pays dans le noir et dans le froid à l'approche de l'hiver. L'Ukraine s'inquiète aussi de l'instabilité politique en France. Dans un article repéré par Courrier International, la correspondante d'Ukrainski Tijen à Paris estime que chaque turbulence sur le continent européen fait le jeu de la Russie qui cherche à déstabiliser et intimider l'Occident pour promouvoir ses propres intérêts. Un mot encore, j'attends vos questions sur cette chronique sur l'actualité internationale pour construire ensemble la revue de presse interactive du samedi. L'adresse pour m'écrire, fcrdpi@radiofrance.com.
Merci beaucoup Catherine Dutu. On vous retrouve demain pour la revue de presse internationale dans la matinale. Et demain dans Culture Monde, dernier épisode de notre série consacrée aux animaux totems. Nous nous demanderons comment les animaux de compagnie et le chat en particulier ont été érigés en remède à la solitude du monde moderne. Et dans un instant, les midis de culture par Marie Laborie.